Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Avec ce matin Pascal Duprat, Fred Weiss, Julien Beneteau et le retour dans notre émission de Cyril Linette. Alors c'était l'une des informations de la semaine, la retraite dans un mois de Raphaël Nadal. Lui, le grand champion qui vit un long chemin de croix depuis 2 ans, a-t-il raté sa fin de carrière? On se posera la question, c'est le bras de fer, restez bien avec nous. Le monde du foot est dithyrambique après le rachat du Paris FC par la famille Arnaud et la société Red Bull. La mayonnaise est-elle sûre de prendre? On en parle à 10h30. Et puis 10h45, les GG contre-attaque. Oui, les grandes gueules, vous prenez les commandes de cette émission. Vous avez proposé il y a 20 minutes à peu près un débat. Et alors là, j'ai les résultats pour l'instant, évidemment. Il vous reste 30 minutes, chers auditeurs. À la dernière place, Iniesta, est-ce qu'il peut devenir un grand entraîneur? 11%, bravo Julien.
Déjà, premièrement, c'est pas fini, mais les résultats des premiers sondages prouvent quelque chose qui va dans le sens de Cyril. Je m'expliquerai après.
Très bien. Tchouaméni capitaine, pour combien de temps? 14%, troisième place pour Pascal Duprat.
C'est beau, c'est beau.
30% pour le foot, est-il vraiment indétrônable de Cyril Linette? 30%. Et alors là, les bras m'en tombent.
Non.
Vincent Collet, peut-il devenir une star en NBA? 45%, c'est un véritable plébiscite, c'est
alors
fou.
Déjà, vous avez changé l'intitulé de la question, donc là, oui, forcément, formulé comme ça, ça l'aide, Fred. Vincent Collet peut devenir une star.
J'ai pas besoin d'être aidé, mais je te remercie.
Mais il a juste demandé, est-ce que les coachs français peuvent réussir en NBA? Mais c'est pas grave.
Est-ce qu'un coach français?
Voilà.
Oui, ça, c'est bon. Ensuite, c'est mon métier, parce que si ça tombe, je suis obligé de faire de la tambouille et de rentrer ici.
Cyril, c'est-à-dire qu'il y a un désamour pour le foot et que certains autres sports bien marketés et bien distribués et bien racontés, comme la NBA et le basket, plaisent aux plus jeunes.
Il y a trois Arrêtez de rêver.
Ok, c'est pas terminé, c'est dans 30 minutes tranquillement. John Dopassos, c'est pas le mec qui met les paris. Mais il a dit un jour.
Il est vieux, non?
Oui, certainement. On ne choisit pas sa carrière, elle s'empare de nous.
RMC, le bras de fer GG.
Creo que no me merezco terminar así.
Je pense que je ne mérite pas d'arrêter de cette manière. J'ai travaillé dur toute ma vie. Je vais travailler très dur pour finir ma carrière de la meilleure manière possible.
Incroyable, et ça termine sur ce petit coup de patte. Et Rafael Nadal réussit pleinement et parfaitement de retour à la compétition.
Après un an sur compétition, c'est l'heure de revenir. On se donne rendez-vous là-bas.
Nadal est en bas d'attaque. Il monte. Elle est sur la ligne et il finit là-dessus. Immense champion, il enchaîne sa raquette. Il n'en prend pas ses yeux.
J'ai travaillé autant que possible chaque jour au cours des derniers mois. Je ne suis pas arrivé à trouver de solution au problème que j'ai eu en Australie.
Bref, podium pour Raphaël Nadal et je le surveille parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on le voit quitter le court Philippe Chatrier. Est-ce qu'il y pense dans sa tête? Je ne sais pas. En tout cas, il s'arrête, il va vers le centre du terrain, il salue la foule, il prend son temps, il savoure. C'est peut-être les adieux de Rafa Nadal ici sur ce court.
Ces deux dernières années ont été particulièrement compliquées. Je pense que je n'ai pas réussi à jouer sans limitation. Je suis ici pour vous annoncer que je prends ma retraite du tennis professionnel.
Ce sera donc à Malaga, dans un mois, que Raphaël Nadal fera ses adieux à un dernier défi en Coupe Davis, chez lui en Espagne, après une carrière évidemment monstrueuse. Jeudi, le roi de la terre battue, vous l'avez entendu, a donc pris la décision que tous les amoureux du tennis redoutaient. Il a dit stop. Son corps a dit stop. Après 2 ans de galère, lui qui rêvait pourtant d'une sortie en 2025 à Roland-Garros. Raphaël Nadal a-t-il raté sa fin de carrière? Dans le coin gauche, la team Oui, représentée par Fred Weiss. Et il est tout seul. Dans le coin droit, la team non. Julien Beneteau, Pascal Duprat, Cyril Linette. On vous a posé cette question sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Et pour l'instant, il y a une tendance qui se dégage. Mais c'est serré tout de même. 59% non, il n'a pas raté sa fin de carrière. 41% oui. Tu vas commencer, Fred, car tu es derrière. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste tennis, Eric Salio. Bonjour, Eric.
Salut, les grandes gueules.
Qui pleure depuis jeudi.
Salut, Eric.
Salut, Eric.
Richie, Rafa, ça fait beaucoup, là, oui.
Ah, Eric. Ton romantisme légendaire.
On le connaît pour ça. La fin de carrière, c'est vrai, de Raphaël Nadal ne rimait plus à grand-chose ces derniers mois.
C'est sévère quand même. Enfin, les faits sont là. Le dernier trophée brandi par Raphaël Nadal, c'est la Coupe des Mousquetaires en 2022, 14e du nom. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, en s'infligeant un traitement d'infiltration pour soulager son pied, il ne s'est pas sacrifié, il n'a pas fait all-in. 2 jours après son sacre à Paris, il bénéficie d'injections à radiofréquence pulsatile et le problème est réglé. À Wimbledon, il est très très bon, mais il est trahi par ses abdos lors de son quart de finale face à Fritz. Il va au bout, mais la lésion est trop sérieuse et il renonce à jouer sa demi face à Kyrgios. On le revoit à l'US, son élimination face à Tiafoe laisse un sentiment mitigé. Il finit l'année comme il peut à la deuxième place mondiale. Début 2023, c'est le couac à l'Open d'Australie. Grave blessure au psoas en plein match contre McDonald. Il ne s'en remettra pas, il renonce à défendre son titre Port d'Auteuil. C'est une saison quasi blanche, mais il ne lâche rien. En début d'année, il s'envole pour l'Australie. Il s'aligne sur un ATP 250 à Brisbane avec le dossard 672, mais en quart, on le voit grimacer face à Thompson. Un problème à la hanche et il file à l'aéroport. La flamme vacille, mais il reprend en avril à Barcelone. Sa lenteur fait peine à voir. Il y a du mieux à Madrid, mais il rechute lourdement face à Urquhart à Rome. On est le 11 mai et là, on se pose des questions. Et pourtant, il débarque à Paris une semaine avant les internationaux de France. Un Paris fou. Les séances d'entraînement sont bonnes, mais le sort est cruel avec un premier tour face à Zverev. Le match est correct, mais la défaite est sèche. 6-3, 7-6, 6-3. Il n'a alors plus qu'un seul objectif, les Jeux dans son jardin. La manière dont Djokovic le démolit au deuxième tour, il y a eu 6-1, 4-0, faut pas l'oublier. Il fait pleurer ses fans. La mission double avec Alcaraz est un échec. Et quand il quitte le Châtrier, il bifurque vers le milieu du court pour saluer la foule. Certains se disent qu'on ne le verra peut-être plus jamais en short sur ce court. Depuis jeudi matin, c'est acté.
Merci beaucoup Eric Salio pour ces précisions. Tu restes avec nous pour ce débat. Je retiendrai une phrase qui nous est tous arrivée. Trahi par ses abdos. Raphaël Nadal a-t-il raté sa fin de carrière? Oui, non, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. C'est oui pour Fred Weiss, t'es tout seul, vas-y.
Oui, le constat peut être un peu difficile, hein, mais quand on est une superstar, une légende, un joueur aussi monstrueux, on s'attend à ce qu'il termine en apothéose. Alors, beaucoup de mes collègues ici me diront que tous peu on réussit à partir au bon moment. Il n'a pas réussi, Rafael Nadal. Et c'est pas parce que les autres n'ont pas réussi qu'il n'aurait pas dû le faire, lui. Je pense qu'après 2022, oui, il est bon. À Wimbledon, il a ses problèmes d'abdominaux. Mais après, c'est une traversée du désert. C'est-à-dire qu'on le voyait jouer, on le voyait pas jouer. Il revenait, c'était lent. J'ai écouté Eric Salio, hein, dans son plaidoyer, on entend qu'il est fan de ce joueur. Rafa Nadal était un joueur fantastique et quand on le voit comme ça lutter autant, que quand on le voit être tant en difficulté, ce joueur tellement dominant, ça nous attriste. Alors oui, certains diront, ah, Roland Garros, il tombe contre Zverev dès le premier match et évidemment ça met un coup d'arrêt. Oui, sauf que ça fait partie du jeu. Mais moi, je me rappelle aussi avoir écouté Eric Salio parler pendant les Jeux Olympiques. Quand il tombe contre Djoko, j'entends Eric Salio, j'entends cette tristesse dans la voix, cette déception, être quasiment anéanti de voir cette idole.
Un champion déchu,
mais surtout sur sa terre battue, sur son court. Et c'est là que ça a été difficile.
Ok, donc pour toi, ça reste... Julien, tu peux lui répondre, évidemment, toi le tennisman.
Non, pour moi c'est pas raté parce que effectivement il y a le dernier titre remonte à 2022 et en fait depuis il avait des ambitions qui étaient clairsemées. C'était les Jeux Olympiques dans un coin de sa tête pour essayer de revenir, d'être compétitif, que ce soit en simple ou en double. Donc en double il l'a fait avec Alcaraz, il a perdu en quart de finale et puis là maintenant il voit très bien qu'il est plus compétitif. Pour aller gagner un grand chelem.
Enfin, les objectifs que tu viens de citer, il s'est raté dans les deux et en simple, dans les grandes longueurs.
C'est pas pour autant que pour moi c'est raté.
Parce que ça on n'est pas en train de dire que ça gâche la carrière. Hein.
Ah non, pas du tout. Hein.
Roger Federer à Wimbledon, il prend six, pose
cette question.
Pourquoi tu mets cette question
au sujet parce que tu es un pervers.
La fin de carrière.
Voilà. Parce que tu dois rien dire sur Nadal. Pardon de te couper. C'est impressionnant. Il a 38 ans. Heureusement qu'il est un peu moins bien. Il craque de partout. Pourquoi vous faites des sujets pareils?
Parce qu'à un moment donné, nos idoles, on a envie de les voir au sommet et s'arrêter au sommet.
Partir sans qu'ils l'annoncent. C'est en fait pour qu'il réussisse sa sortie dans votre esprit, ça voudrait dire que quelques mois après Roland Garros 2022, il sente que son corps ne tient plus et il dise allez stop.
Non mais alors, il va plus loin dans son raisonnement. Il doit s'arrêter avant alors.
C'est dur.
Au sommet de sa carrière. Parce que même en 2022, il n'est pas au sommet de sa carrière.
Et là, il en a une très belle.
Il décline sa carrière. Et là, il faut qu'il s'arrête le jour où il gagne le premier Roland Garros. Alors pendant qu'on y est.
Et là, il a une très belle occasion de partir en beauté.
Oui.
Phase finale de la Coupe Davis, c'est pas fini. Il est chez lui, équipe espagnole. Ils ont une grande chance de la gagner. Qui joue ou qui ne joue pas, mais s'il...
Mais ça, c'est une vraie interrogation aussi, parce qu'il pourrait ne pas jouer. Je pense sous contrôle d'Eric Salio, évidemment.
Il est pas
en double, certainement remplaçant.
Exactement. Mais il est dans l'équipe, il est dans les cinq. David Ferrer, le capitaine, l'a pris parce qu'il sait ce qu'il peut apporter. Et s'il part avec le saladier d'argent sous les yeux de Federer et Djokovic qui vont venir à Malaga pour sa dernière, et ben
ok.
Julien, j'ai une question.
Il faut qu'il joue Ferrer, et attention, Ferrer, il est pas là pour faire plaisir à
Ferrer. Va avoir un gros problème.
Mais non, il va pas avoir un gros problème. Non, Eric.
Ah si.
Ah non, parce que Nadal, c'est un énorme champion et il est très humble. Et s'il sait qu'il n'est pas prêt.
Ah, merci, Julien.
Et qu'il est moins bon, il le dira lui-même. Il dira à David Ferrer.
I hope so, j'espère.
Et c'est pas comme certains dans d'autres sports.
Merci, Julien.
Ok, t'as un doute pour le coup?
Mais on ne sait pas dans quel état il sera. Alors, il va jouer la semaine prochaine une exhibition en Arabie.
Mais d'accord, Eric, mais si lui, il sent qu'il n'est pas bien, qu'il est moins bon qu'Alcaraz.
Je l'espère.
Il est moins bon que.
Mais je serais choqué qu'il soulève la Coupe Davis sans avoir foulé le cours.
Bah, pas moi.
Bon, Julien, moi j'ai une question.
Ta question est après,
Cyril. Je suis un grand fan de tennis, surtout sur terre battue. Roland Garros, pour moi, c'est quelque chose d'incontournable. Est-ce que tu n'aurais pas aimé qu'il l'annonce juste après sa défaite contre Zverev, qu'on puisse faire la fête avec lui? Alors, lui, effectivement, je sais ce que tu vas me répondre, que lui, c'est pas son style. D'accord. Ok. Sauf que.
Non, mais toi, il y a que la teuf qui t'intéresse.
Il faut penser aux fans aussi qui auraient voulu le célébrer, qui auraient voulu dire que c'est une légende.
Ils le feront l'an prochain, ce sera
très adapté. Oui, mais là, directement, sortir du cours.
Ouais, mais tu t'accapares. Tu t'accapares un peu le tournoi. Et c'est pas dans ça.
C'est pas dans sa mentalité. Non. Les fans n'avaient pas le droit.
Alors que l'an prochain, s'il y a un truc, j'imagine, Eric, qui sera prévu autour de lui, ça sera fantastique et tout le monde pourra le célébrer.
Mais ça se fait très souvent quand même que des joueurs annoncent pas annoncer sa retraite, annoncer au moins que c'était son dernier Roland Garros, pouvoir célébrer, parce que c'est sa maison.
Il en était pas sûr à l'époque.
On lui a demandé, la direction du tournoi lui a demandé.
Tout était prêt d'ailleurs.
Et lui a refusé ce que dit.
Il a dit non, parce que je pense qu'au fond de lui, il pensait pouvoir revenir. Il savait pas.
Et donc c'est en ça pour moi qu'il a raté un petit peu de
chance. Aux Jeux Olympiques.
J'ai une vision du sport qui est peut-être. Bisounours un peu, mais ce que tu as dit tout à l'heure, ça me réconforte dans l'idée que j'avais de Nadal, à savoir que pour moi, il incarne l'humilité, la résilience. Ce qu'il fait alors qu'il est blessé, c'est de la résilience. C'est aussi un acte courageux de sportif que d'être résilient alors que tu étais au sommet et que tu continues à jouer. Il aime son sport, il aime le tennis. Et voilà pas qu'il y a les bisprois qui considèrent qu'il a raté sa carrière. Et toi, Fred, tu te rends compte de ce que tu dis, oh sacrilège.
Non, mais deux choses. Tout à fait d'accord avec Pascal. Moi, je trouve que sa fin de carrière est à l'image de ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est une fin de carrière de combattant, de passionné. Et je trouve que ça sert finalement. C'est plus en raccord avec ce qu'il a été. On rappelle que c'était peut-être pas forcément au début le joueur qu'on estimait le plus doué. Enfin, on sait comment il a construit sa légende. Premier point. Et deuxième point, on oubliera cette fin de carrière.
Ah, mais ça, on oubliera.
On a oublié parce que j'ai lu que Borg était revenu en 91. On a tous l'image de Björn Borg qui arrête en pleine gloire à 26 ans. En fait, il est revenu, il a été battu par Henri Lecomte à Monte-Carlo en 91. On a oublié que Pete Sampras, j'ai lu un article intéressant sur Eurosport, termine sur en gagnant l'US Open en 2002. On dit, c'est fantastique.
Bon, on essaie d'oublier que Michael Jordan est revenu aussi. On essaye tous de l'oublier. Parce que bien sûr,
qu'est-ce qui va rester de Nadal? Certes, sur les deux dernières années, on dira peut-être, et en plus, il était humble et combatif et il s'est battu jusqu'au bout.
Il a joué 23 matchs dans les deux dernières années.
Ouais, mais tout le reste, voilà.
Ben oui, mais encore une fois, je pense Eric Salio qui était dépité, complètement abattu de le voir se faire autant dominer sur la fin.
C'est un peu dommage. Juger la carrière de Rafa Nadal sur l'état d'Eric Salio.
Les émotions d'Eric.
Fred, il perd sur le futur champion olympique aussi.
Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu as vu, comment il s'est fait ramasser.
Oui, 6-5-4-0, c'est pas possible.
Je crois que tu rames, Fred. J'ai l'impression que tu rames.
Je pense que toi, tu rames. Tu te trompes.
Cyril, juste en quoi? Je parlais de Roger Federer, il y a eu le 6-0 aussi pour son dernier Wimbledon, où il prend une bulle quand même, dans son jardin. Évidemment, on l'a plutôt oublié. Oui, Cyril.
Non, je trouve que c'est une question qui est limite de la part des grandes gueules.
Mais on oubliera ce sujet aussi. Ton sujet, on l'oubliera.
Voilà. Alors, c'est très limite.
Moi, je trouve que les réponses ont été peut-être un peu limites. Alors là, j'essaie de vous répondre de mon côté, parce que c'est dommage que vous n'alliez pas. pas justement sur ce que vous avez envie de garder d'un champion, et à un moment donné, quand il tire un petit peu trop sur la machine, bah en fait, on n'a pas envie de le voir comme ça. On n'a pas envie de voir. Moi, quand je regarde un tournoi de golf et quand je vois Tiger Woods aujourd'hui, eh ben, ça me fait de la peine. J'ai mal, il boitille. Il se retire des tournois, il termine 150e. Eh ben, ça me fait pas plaisir, moi, personnellement.
Moi, ça me fait de la peine quand je vois des tournois des vétérans. J'aime pas les tournois des vieilles gloires. Par exemple, à Roland Garros et tout, j'aime pas ça. Parce que je préfère, alors, à chacun ses goûts, hein, mais moi, je préfère revoir les grands matchs de McEnroe que les tournois des, je n'aime pas ça. Là, il a tenté jusqu'au bout. Je pense qu'il s'est jamais considéré comme un vétéran sur les deux dernières années. Ouais, il a pas fait ça 10 ans. Il a essayé jusqu'au JO.
Voilà. Honnêtement, quand tu voyais ces vidéos, je travaille, je reviendrai, et finalement, qu'il ne soit jamais revenu, est-ce que c'est pas un petit peu désolant quand même quand c'est une légende à ce point? Encore une fois, je suis un énorme fan de Rafael Nadal.
Il l'a fait avec sincérité,
Nadal.
Je sais, heureusement, que tu n'es pas objectif, mais c'est ça être fan, être objectif sur, le, sur la personne qu'on vénère.
Jérémy, et il t'adore en plus, hein, donc prends garde. Hein,
ah oui, c'est vrai en plus.
Prends garde, Pascal.
Attention, Pascal.
Jérémy nous appelle au 32-16. Bonjour, Jérémy.
Et bonjour à tous.
Est-ce que tu vas venir au secours de Fred, un peu seul sur ce débat, ou tu vas être contre lui? Est-ce qu'il a raté sa fin de carrière?
Je vais venir un peu au secours de Fred, j'ai l'impression qu'il en a besoin. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il a un peu raté sa fin de carrière, je dirais pas complètement, parce que comme le disait Pascal, l'image de Nadal, c'est un peu sa combativité, etc. Donc c'est ce qu'il a essayé. Mais quelque part, j'ai l'impression que sur les deux dernières années, il a un peu voulu partir à la course au titre au Grand Chelem avec Djoko, en gagnant son dernier Roland. Ça le relançait un peu dans cette voie-là, et a essayé de rester comme le plus grand du tennis avec le nombre de Grand Chelem. Et pas de bol, en fait, derrière, il s'est pété, et c'est Djoko qui a pris un peu cette place-là. Et donc c'est pour ça que sur la fin, je pense qu'il rate, il aurait pu rester comme sur une victoire à Roland, et s'arrêter là comme le dieu de la terre battue et ce qui est son terrain. Il a voulu pousser un peu plus parce que quelque part il pouvait pas l'être derrière Djoko et Federer en termes de meilleur du tennis mondial. Et c'est un peu à ce moment-là où il a perdu le fil de l'histoire, je dirais.
Oui, et quelque part, est-ce qu'on n'aurait pas dit à ce moment-là, s'il avait arrêté en 2022, oui, mais bon, la polémique sur les injections, est-ce qu'on serait pas resté là-dessus, justement, sur sa fin de carrière? Mais ça, c'est un autre débat que je vous propose pas dans cette émission. Sinon, je vais me faire rabrouer par notre ami Pascal Duprat. Ouf. Merci, Jérémy, d'avoir composé le 32-16. Merci, Eric Salio. Triste semaine, hein, pour l'éditeur,
parce qu'il aurait pu faire le 23e à Wimbledon, et effectivement, c'était...
C'est la course à l'échalote qu'il a perdu.
Ouais, peut-être, ouais. Okay. Tes abdos.
Tu pars à Malaga ou pas?
On va faire une semaine à fond. On va suivre les derniers souffles de Rafa. On va partir avec Anthony et ça va être top, parce que je pense que le monde du tennis sera au rendez-vous là-bas. Et l'histoire est belle parce qu'en 2000, il est porte-drapeau de l'équipe d'Espagne de Coupe Davis. C'était à Séville. Et 2024, donc il sera dans l'équipe. Et je vais surveiller le mec qui portera le drapeau espagnol, parce que ce sera...
En tout cas, merci Eric de vous faire vivre des émotions.
Merci Pascal.
À nul autre pareil. Bravo.
Merci.
Bravo. C'est Eric Salio, c'est pas Yannick Noah non plus.
Non, mais.
Merci Eric d'avoir été avec nous.
C'est la passion.
Quand même, Espagne-Pays-Bas, c'est pas gagné. Hein,
pour les Espagnols, c'est dans un bras. Se rendre compte qu'ils joueraient Van de Sandschulp, qui vient de battre Alcaraz à l'US. Ce serait pas un cadeau de la ligne. Hein. Okay.
On est obligé de le dire vite quand on le dit. On est obligé. Sachez que le résultat de ce sondage, c'est du 60-40. Tu as perdu un petit pourcentage et pourtant tu t'es bien battu. Mon Fred, pour vous, non. Il n'a pas raté sa fin de carrière. 10h26, on se retrouve dans quelques instants. La mayonnaise est-elle sûre de prendre? On va parler du Paris FC et de ce projet de rachat. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h30 de retour dans les grandes gueules du sport. Pascal Duprat, Cyril Linette, Julien Beneteau, Fred Weiss, restez bien avec nous parce que dans 10 minutes, il est en train de se produire quelque chose d'incroyable. Ce sont les GG contre-attaque. Sachez-le, vous avez proposé 3 débats foot, 1 débat basket. Et alors là, grande surprise pour l'instant, Fred Weiss est en train de gagner. Nous allons peut-être pour la première fois dans cette émission parler de basket avec Fred Weiss. Vincent Collet peut-il être une grande star? J'en rajoute un peu plus, hein. En NBA, ce sera ton débat.
Une superstar,
voilà. Ce sera un petit peu plus tard, mais attention, ça peut encore évoluer, évidemment. C'est une annonce qui a fait l'unanimité, et c'est assez rare pour le souligner. Depuis l'annonce du rachat du Paris FC par la famille Arnaud et Red Bull, le monde du foot se prend à rêver de grands clubs à Paris, un derby de folie et pourquoi pas un championnat relancé. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, tout est à construire. Pas de ferveur ou peu de ferveur, peu de supporters, pas de stade, peu d'identité également, mais pour Jean-Michel Aulas, c'est sûr, ça va marcher. C'est la punchline des GG rapportée par notre copine Siri.
RMC, la punchline GG.
C'est formidable pour Paris d'abord, qui a des atouts pour des grands investisseurs qui sont évidents. Que la famille Arnaud ne soit pas insensible au football, au-delà de Paris, est une formidable nouvelle. Red Bull, c'est ce qui se fait de mieux pour amener des jeunes au niveau le plus haut. L'intérêt est évident, en particulier pour le Paris FC parce que c'est ce qui était reproché au PSG notamment. Red Bull, ce sont des gens bien, qui ont la rigueur allemande autrichienne et qui n'hésitent pas à investir des sommes conséquentes. J'aurais aimé avoir un club avec de tels actionnaires.
Ah, il aurait aimé, Jean-Michel Aulas. Notre débat, le rachat du Paris FC, la mayonnaise, est-elle sûre de prendre ? Oui ou non, Cyril Linette ?
Non.
Pascal Duprat ?
Oui.
Julien Benneteau ?
On n'est jamais sûr de rien dans la vie.
Ok, ça va Denis Charvet ?
Je dirais plutôt oui dans le
plutôt
futur
oui.
proche.
Ok, Fred Weiss ?
Non.
Non. Le 32-16, évidemment, supporter du PSG, du Paris FC, si vous avez envie de réagir ou simplement amoureux du foot, et peut-être, pourquoi pas, de la capitale, de Paris. Pourquoi non, Cyril Linette ?
Alors d'abord, c'est une super nouvelle, parce que effectivement, on se plaint que les grandes forces économiques du pays ne sont pas dans le foot depuis des années, et là, on y vient, grâce notamment au travail de Pierre Ferracci, l'actuel président et propriétaire du Paris Football Club. Donc c'est une très bonne nouvelle. Après, est-ce que c'est sûr de prendre ? Non, parce que le sport à Paris, c'est très dur. Vous relancez Portez, vous mettez un peu d'argent, vous avez un sentiment d'appartenance qui tout de suite se crée, vous avez plein de monde et puis c'est parti, vous pouvez faire ça dans plein de villes. À Paris, il n'y a pas de sentiment d'appartenance, ça n'existe pas, c'est beaucoup trop disparate. Et des échecs sur le sport, il y en a eu des dizaines et des dizaines, le Matra Racing, le Stade Français aujourd'hui, Maguazini remplissait le Stade de France, le Stade Français à Jean Moins, c'est 10 000 personnes alors que c'est une bonne équipe, donc c'est très dur.
Non,
le PSG, même le PSG en ce moment, depuis qu'il n'y a plus Messi, Neymar et Mbappé, je vous assure, il y a quelques places vides au Parc des Princes. Il est facile de trouver des billets sur les plateformes de revente de billets, ce qui était absolument exclu. Absolument exclu il y a encore un an. Le sport à Paris, c'est très dur. Donc, il faut évidemment être prudent. Après, c'est une super nouvelle. Il faut s'y prendre, je pense, pas à pas. Partir des fondamentaux du Paris Football Club, qui sont effectivement un peu minces, mais qui existent quand même. La formation, il y a des choses, une petite base de supporters. Et puis, petit à petit, faire grandir cet ADN. Et surtout, à mon avis, de grâce, éviter les grands discours marketing de type ça sera le club de la banlieue, ça sera le club des jeunes, parce que c'est ce qui notamment freine le PSG. Pour moi, le PSG, le côté on va gagner la Ligue des Champions dans les 5 ans en arrivant, le côté on veut des stars, maintenant le côté on veut plus de stars, arrêtons de faire du marketing et de décréter des choses absolument incroyables, faisons un club de foot, pas à pas. Et s'il faut un club de foot pas à pas, et comme il y a des gens de grande qualité autour de la table, ça peut marcher. Mais je pense qu'il faut beaucoup d'humilité et de patience.
J'y reviendrai sur cet argument parce qu'il faut quand même raconter une histoire. Et ça passe aussi par, eh bien, peut-être
mais pas
se détacher
chose, pas
du,
chose qui emprisonne, quoi,
du Paris Saint-Germain. Pascal Duprat.
En fait, je comprends pas, mais Cyril, mais alors moi je suis pas parisien, c'est peut-être pour ça. Je suis un naïf provincial. Mais en fait, il y avait quand même une incongruité, c'est que Paris était le seul club en Europe capitale qui n'avait qu'un seul club de football. Donc là,
donc c'est culturel d'ailleurs. C'est pas culturel. On craint de créer une culture par rapport à ça. Donc on sait jamais ce qui peut se passer.
Culturel ou non, toujours est-il que quand vous avez un des fleurons de l'industrie française du luxe, en plus, qui rachète ce club et qui s'adosse Red Bull, qui a fait ses preuves dans le domaine du football, ben je me dis que tout ça, ça sent bon et que ça va marcher.
La question, c'est est-ce que c'est sûr de prendre ?
Ça va marcher. Sûr de prendre, on ne sait jamais, mais je vois pas comment ça ne prendrait pas. Ils sont en Ligue 2. Ils sont pas en DH, ils sont en Ligue 2.
Ils sont leaders de Ligue 2.
Ils sont leaders de Ligue 2. Il y a un vivier phénoménal à Paris de jeunes joueurs. Paris peut pas tout squeezer. Ça peut être parce que, encore une fois, c'est un des atavismes de Red Bull de s'attacher à la jeunesse. Dans leurs clubs respectifs, ce sont toujours des jeunes qu'ils réussissent à mettre en avant. Donc je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Et vous me parlez de l'histoire. Bah, l'histoire, il faut juste la créer. Parce que le Paris Saint-Germain est pas si vieux que ça. Je me rappelle pas la date de création.
76.
Mais c'est un jeune club, quoi qu'on en dise, par rapport à d'autres. Donc je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Et je vais même dire que ça Paris Saint-Germain peut être un atout pour le Paris FC. Tout ce que fait mal le Paris Saint-Germain, ben Paris FC aurait intérêt à le faire bien.
Oui, c'était bon dans le storytelling. Ah, je suis d'accord, on est tous d'accord sur le fait que la chance est incroyable. Ouais. Et évidemment qu'on est ravis que ça arrive comme ça. En plus avec Red Bull, comme tu l'as dit, qui peut aider par rapport à ça. Sauf que ça serait méconnaître le sport que de se dire on peut réussir juste parce qu'on a de l'argent et qu'on a des idées. Non, il manque les supporters, le storytelling. Il faut expliquer comment on crée ce club, pourquoi, avec quelle base, comment on veut le faire. Il faut un stade. Le stade, pour l'instant, on est un petit peu, on sait pas exactement où ça va jouer. Pour l'instant, il y a quand même beaucoup d'inconnus. Et dans le sport, en général, il y a des inconnus. C'est facile de mettre de l'argent pour gagner des matchs. Sauf que si c'était aussi simple, tout le monde mettrait beaucoup d'argent et gagnerait tout. C'est pas aussi simple que ça, le sport. Donc, il y a tellement d'aléas qu'on n'arrive pas à maîtriser dans le sport que c'est impossible de dire que ça va fonctionner. Est-ce que, s'il y avait un bateau et je devais choisir un bateau, je choisirais celui-là? Évidemment que oui. Parce que les bases semblent très solides. Mais est-ce que c'est suffisant? Pour moi, non.
Je vous propose d'écouter, avant d'écouter l'avis de Julien, c'est Maxime Bossis que nous avons joint cette semaine, qui a participé à l'aventure du Matra Racing. Vous vous en souvenez, dans les années 90. Maxime Bossis le dit, il faut faire attention.
Paris ne doit pas s'inquiéter. Ils ont déjà quand même pas mal de longueur d'avance. Ils ont des moyens monumentaux. Et quelque part, c'est bien aussi d'avoir deux clubs qui peuvent être adversaires dans la même ville. Et c'est plutôt quelque chose qui est positif pour les deux. Mais je pense pas que le Paris Saint-Germain puisse s'inquiéter pour le moment, du moins.
Voilà, Maxime Bossis n'a absolument pas répondu à ma question. Le producteur sera viré de cette émission. C'est un autre extrait que vous allez vous faire passer. Ne vous inquiétez pas, ce sera dans quelques instants. Julien Benetton.
Pour reprendre la dernière phrase de Fred, oui, c'est un bateau qui semble avoir des bases solides. Je pense que la famille Arnaud va y aller étape par étape, va pas annoncer qu'ils veulent concurrencer le PSG tout de suite. Il faut arriver à monter en Ligue 1 très rapidement. Donc là, ils sont leaders. Je pense qu'ils ont en tête de quand même de monter. Mais c'est les aléas du sport en France et du sport européen.
Est-ce que là déjà, elle est là, la clé? Monter très rapidement, les
oui,
gars.
Oui, parce que forcément, après, pour remplir un stade, pour remplir un stade,
pour s'établir, s'établir en Ligue 1, pour pouvoir avoir des projets, des ambitions,
et bien exactement, sûr. Attirer des joueurs, construire une équipe, c'est pour moi c'est très important. Mais je pense que le PSG va leur servir de boussole pour pas faire la même chose. Ça c'est primordial. Et aussi, le stade du PSG va leur servir de boussole. Je pense qu'ils sont tapis dans l'ombre avec la mairie de Paris et qu'ils attendent le moindre mouvement des Qataris par rapport à la mairie de Paris, par rapport au Parc des Princes. Et là, ils ont un coup à jouer. Je pense qu'ils ont un vrai coup à jouer.
C'est quoi le plus important aujourd'hui à faire quand on reprend un club comme ça qui part? J'ai pas envie de dire de rien parce que ce serait.
Non, mais c'est non, le plus important, il y a quand même le truc, plus important, c'est de pas faire ça, justement. Il y a déjà, il y a un président qui a pris le club en 2012. Ça fait 4-5 ans qu'ils échouent de très peu dans les barrages pour monter. C'est un bon club aujourd'hui.
Il faut garder l'histoire.
Il n'y a pas un appui populaire parce que c'est Paris et que c'est dur de trouver des gens qui vont. Ben voilà, le Paris Basketball est en train d'y arriver depuis quelques années.
C'est fantastique.
Fantastique. Très nouveau. Il y a eu tellement d'échecs sur basket à Paris avant d'y arriver. Donc, c'est possible, mais à Paris, c'est très difficile. Donc, je pense que, mais LVMH est suffisamment intelligent pour le comprendre. Pierre Ferracci va rester président du club pendant 2-3 ans. La première chose à faire, c'est de s'appuyer sur les ressources existantes du club et de les aider petit à petit.
Il y a déjà deux choses très importantes. Enfin, très importantes. Comme quoi, c'est pas un club qui part de rien. Ils ont un centre d'entraînement qui paraît très, très.
Ils ont construit,
construit qui est très
à Orly.
Ils ont une section féminine qui est très compétitive. Alors cette année, je crois qu'en Ligue des Champions, elles se sont un petit peu ramassées comme celle du PSG, mais ils sont
en avance sur le sport du football féminin.
Là-dessus, ils sont en avance aussi, comme les grands clubs d'Europe. Et Pascal a dit quelque chose qui est très juste. On parle de la famille Arnaud, parce que c'est la famille Arnaud et pas le groupe LVMH qui va investir. Mais ils ont une caution sportive, ou en tout cas, ils vont s'appuyer sur une expertise sportive avec Red Bull. Et ça, c'est très intelligent de leur part. Contrairement aux Qataris.
Ils ne vont pas comme ça.
Mais contrairement aux Qataris qui ont
Non, mais attendez.
On ne peut pas gérer ça.
Enfin, les Qataris, à côté, ils avaient Ancelotti. Ils ont décidé qu'il n'était pas assez bon pour eux. Vous voyez la différence? Eux, ok, on va garder Pierre Ferracci pendant deux ou trois ans. On s'appuie avec Red Bull. C'est quand même pas du tout la même logique.
Peut-être, mais le Paris Saint-Germain a réussi à construire une histoire qui était évidemment un peu fake, mais qui est arrivée. Bon, déjà, le Paris Saint-Germain avait une autre histoire quand il a été repris par les Qataris avec le Paris FC. Mais ils sont arrivés avec une idée. C'était on montre les muscles, on envoie beaucoup d'argent, on envoie des stars. Et je dis pas que le Paris FC doit faire la même chose, mais est-ce qu'à un moment donné, les supporters en attente, non mais il faut pas quelque chose de fort, il faut pas annoncer quelque chose qui fasse prendre cette mayonnaise.
Moi je crois pas. Je pense que ça.
Cohérence.
Je pense que ça t'emprisonne de partir dans des discours marketing. Ouais. Du reste, le PSG le change de discours tous les 4 ans. Donc je pense que ça t'emprisonne. Et d'autre part, il faut pas non plus se positionner comme anti-PSG, parce que tout ce qui est anti sur le, il faut créer du désir, pas du désir par opposition aux autres. Pas
commencer à dire
on sera l'anti-PSG, ça marchera pas. Non, il va falloir trouver quelque chose, effectivement, petit à petit. Mais il faut d'abord construire un bon club de foot avec effectivement.
Mais c'est déjà le cas. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est important de dire. Ils sont en Ligue 2, ils sont leaders, ils ont un centre d'entraînement qui est flambant neuf. Ils ont pris le train du foot féminin et ma foi fort bien.
Pascal, je te coupe. Donc, juste, toi, tu as connu Evian Thonon-Gaillard quand même. C'est-à-dire que tu as apporté une identité à un club.
Avec un fleuron de adossé à un fleuron de l'industrie qui nous a fait énormément progresser et qui nous a fait franchir des caps.
Mais comment on construit l'identité? C'est avec les résultats sportifs.
L'identité, c'était simple. J'avais pas de concurrent, donc l'identité, c'était presque clanique. C'est-à-dire qu'un Savoyard se devait d'être derrière notre club. Et, c'est pour cette raison qu'on affichait aussi nos couleurs, notre croix de Savoie sur la bannière. Donc c'était plus facile à faire, j'imagine.
À Paris,
encore une fois, je suis connaisseur et amateur de football, mais il me semble, par exemple, que le Red Star est plus populaire que le Paris FC.
Bien sûr,
c'est une erreur, mais j'ai l'impression que est davantage ancré dans l'histoire que ne l'est le Paris FC. Ouais. Mais tout ceci, malheureusement, pour le Red Star, pour l'instant, ça va sauter parce que le Paris FC, là, est adossé à des mastodontes. Et le pognon
dans le sport, c'est important, mais le storytelling, c'est de se dire qu'un jour, on aura
des derbies à l'instar de ce qui se fait à Manchester, on aura des derbies à Paris, c'est très bien pour tout le monde.
L'histoire, dans un premier temps en Ligue 1 au stade Jean Bouin, le match du dimanche après-midi ou du samedi 17h du Paris FC avec un maillot sympa, Red Bull, des jeunes, une identité
public familial.
Mais l'identité visuelle va être très importante aussi.
Bien sûr, un truc plus familial, un truc plus sympa où au PSG on attend des promesses, ça se casse la gueule en Ligue des Champions, etc. Et je pense qu'ils vont se construire petit à petit là-dessus.
Je vous adore parce que vous me dites il ne faut pas se construire contre le Paris Saint-Germain et pourtant vous me donnez à chaque fois des arguments pour me dire attention, il faut surtout pas faire.
C'est sûr que s'ils arrivent avec des sacs de sport Vuitton, ça va marquer mal. Ok, mais ils sont suffisamment intelligents. Ils vont construire leur club, leur fête.
Proche du peuple, comme les Evian Thonon-Gaillard.
Absolument.
On a bien compris, mon cher Pascal.
Il faut que les Parisiens mordent et ils vont mordre à cela.
10h44, le moment est important dans les grandes gueules du sport. Les GG contre-attaquent dans quelques instants. 4 propositions de débat et attention, peut-être une énorme surprise. Peut-être un énorme scandale, on ne sait pas. C'est dans quelques instants, les GG contre-attaque.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h47, de retour dans les grandes gueules du sport. Ce matin, Julien Beneteau, Cyril Linette, Pascal Duprat, Fred Weiss. À partir de 11h, nous allons parler de Tadej Pogacar. Encore lui, oui, il a encore gagné hier lors du Tour de Lombardie. Est-ce forcément une bonne pub pour le cyclisme? Ce sera un 2 contre 2 dans les grandes gueules du sport. J'ai hâte d'entendre évidemment vos arguments. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer les GG.
RMC. Les GG contre-attaque.
4 propositions de débat ce matin. Vous avez pu voter librement, chers auditeurs, car Pascal nous dira certainement que c'est un scandale, que c'est truqué. Non, vous êtes libre de voter pour votre débat préféré. À la dernière place, il s'est, j'allais dire, bien battu. Non, on peut pas dire qu'il s'est bien battu.
Il est venu.
Iniesta, grand entraîneur ou pas, 11%. Écoute, c'est quand même 11%.
C'est la preuve qu'une certaine idée du football est morte.
Bravo, voilà. Julien. À la troisième place, Tchouaméni, capitaine, pour longtemps, oui ou non, 17%, troisième place pour toi. Médaille de bronze, bravo Pascal.
No comment.
Deuxième place, il fait son grand retour, il pensait empocher la mise. Eh bien non, mais c'est une bonne deuxième place, 29%, le foot est-il si indétrônable?
Ouais, on en reparlera, je pense.
Ah ouais, garde-le ce sujet.
Ouais, on en reparlera. Mais c'est super. La victoire de l'NBA.
Fred Weiss avec Vincent Collet en NBA. Et pourquoi faire? Tu vas tout nous dire, tu vas tenter de convaincre les GG, évidemment, avec ton débat. 43% déjà, bravo Fred, à toi de jouer.
C'est un vrai métier. Donc, je vis une vraie révolution. Quand j'ai commencé le basket, aller jouer en NBA, c'était quelque chose d'assez extraordinaire déjà. Être drafté, c'était extraordinaire. Sur les deux dernières années, on a les deux numéro un de la draft. C'est-à-dire qu'en gros, nos joueurs sont enfin représentatifs, ils sont enfin adulés de l'autre côté de l'Atlantique. C'est-à-dire que maintenant, nos joueurs ont une vraie place sur l'échiquier mondial. Maintenant, ce qui nous manque, c'est des coachs. Parce qu'on parle beaucoup de la formation française, on dit beaucoup que cette formation est très bonne, preuve en est, on amène de plus en plus de joueurs en NBA, mais on n'a pas de coach. Alors on a déjà très peu de coachs à l'étranger dans le basket européen, c'est-à-dire qu'on a Valérie Garnier entre autres et Pierre Vincent, mais dans le basket féminin, dans le basket européen masculin, il n'y a pas de coach français déjà. Et on se dit, qui de mieux que Vincent Collet pour performer là-bas, pour réussir aux États-Unis où personne n'a réussi. Pourquoi? Parce que il a joué contre Greg Popovich. Greg Popovich le respecte, il l'aime beaucoup et il l'a battu
deux fois.
Greg Popovich deux fois. Donc tu te dis il y a peut-être quelque chose. Greg Popovich est quand même un des coachs les plus respectés de la NBA. Donc tu dis qu'il y a peut-être une chance. Ensuite il a eu Kenny Atkinson au sein de son staff. Vincent Collet, c'était son assistant, et Kenny Atkinson est tombé amoureux fou de Vincent Collet, de son basket, de sa façon de coacher, de sa façon d'être, et il lui a proposé d'être assistant d'abord. Sauf que en NBA c'est un petit peu plus compliqué que ça, et malheureusement tu peux pas être assistant comme ça sans demander au GM. Le GM n'a pas voulu, sauf qu'il a quand même réussi à l'imposer comme consultant. Et ma question, et la question que je voudrais poser au GG, est-ce que vous pensez, moi je pense que oui, hein, mais est-ce que vous pensez qu'un coach français comme Vincent Collet, qui a montré tellement de choses, qui a eu tellement de médailles avec l'équipe de France, pourrait performer en NBA, sachant que des Scariolo, des Ettore Messina ont rêvé d'avoir des postes, ils ont été assistants, ils n'ont jamais réussi à performer?
Bah moi j'ai une question pour toi, puisque c'est toi qui sais, on dit quand même que, toujours que c'est pas du tout le même basket. Qu'est-ce que lui va apporter que non pas c'est une rigueur défensive plus grande, mais est-ce que la NBA en veut vraiment?
Alors concrètement, il y a un vrai problème avec les coachs européens déjà en NBA. Généralement, il y en a très peu. Il y a Rajkovic qui est le coach de Toronto Raptors, mais c'est à peu près tout. En fait, ce qui se passe avec le basket européen, c'est qu'il y a plus d'espace. Donc quand il y a plus d'espace, ça veut dire que défensivement, tu peux faire plus de choses, parce qu'il y a des règles beaucoup plus strictes en NBA par rapport à la défense. Donc, je pense que Vincent Collet peut importer cette fluidité, ce jeu collectif. Ce qui se passe en NBA maintenant, on n'est que sur du jeu individuel. Mmh. C'est-à-dire que tu as des joueurs superstars qui ont le rôle de marquer les paniers, d'avoir le ballon en main et d'avancer. Un Vincent Collet, c'est quelqu'un qui arrive normalement à faire jouer une équipe ensemble, qui arrive à travailler ensemble. Alors oui, il a eu des superstars comme Wemby, mais il a réussi à le mettre en valeur.
Oui, mais c'est notre discours franco-français. J'aurais quelque chose à t'opposer sur Vincent Collet, justement, son histoire en NBA qui va commencer. On est très content, évidemment, pour
comme
lui.
Comme consultant, une fois par semaine, une semaine par mois.
C'est-à-dire, ça.
En fait, il n'est pas dans le staff, parce que le GM avait déjà fait son staff.
Et a refusé qu'il y ait un Français qui. Non, mais qui le connaissait peu.
Il n'y a pas d'assistant.
Donc son rôle.
C'est
effectif.
En fait, comme Atkinson, encore une fois, a beaucoup aimé travailler avec Vincent Collet, il a envie de voir sa vision du basket.
Mais il va être là-bas ou il va être en Zoom?
Alors, il sera là-bas une semaine par mois.
Est-ce que, pour gagner de la crédibilité en NBA, les coachs français doivent pas être déjà très performants en Euroleague? Est-ce que c'est pas une étape obligatoire?
Malheureusement, non, parce que l'Euroleague est pas considérée. Preuve en est, Luka Doncic a été MVP de l'Euroleague, et quand il est arrivé là-bas, Charles Barkley a dit, c'est qui ce gamin, on connaît pas, okay. Il jouait contre des blaireaux en Europe, là par contre ça joue vraiment. Il est arrivé, il a massacré tout le monde. Je pense qu'il faut des pionniers, il faut des coachs qui arrivent, qui ont cet impact, qui ont ce soutien. Encore une fois, je parle de Popovic, qui est vraiment un vrai soutien pour lui. Je pense que ça peut fonctionner, mais dans la durée, si on a bien qui est capable de le faire, c'est Vincent Collet.
Tu penses vraiment, parce que quand même Vincent Collet, qui a une très belle carrière en France, c'est un de nos meilleurs entraîneurs que l'on ait connu de notre histoire, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais si même le GM des Cleveland Cavaliers, qui est quand même depuis LeBron James, ou même cette franchise n'a jamais été une grande franchise NBA, veut pas de Vincent Collet et qu'ils arrivent à le mettre sur Zoom une fois par mois comme
encore
assistant.
Encore une fois, il n'est pas sur Zoom, il est présent une semaine par mois.
T'as compris. Je veux dire, une semaine par mois, comment tu veux installer Vincent Collet en NBA?
Il faut y aller progressivement, encore une fois. Il faut des pionniers. On n'en a pas pour l'instant. C'est pas comme ça que ça se passe en NBA. Preuve en est, Gershon Yabusele a fait quelque chose d'extraordinaire aux Jeux Olympiques. Il s'est retrouvé à signer un contrat de 2 millions de dollars uniquement en NBA. Il n'est pas sûr de jouer. C'est-à-dire qu'en gros, ça te permet d'avoir l'ouverture, la possibilité de discuter. Il doit faire ses preuves, il doit montrer des choses. Il y a encore beaucoup de travail, mais pour moi, c'est une porte qui s'entrouvre.
Coach, je lui crois.
Assistant au moins, ce qui serait déjà quelque chose de
très bien. Pour que lui-même autres, assistant, et ensuite, et on serait d'accord pour être assistant lui-même.
Oui, bien sûr, donc, bien sûr. Coup, des Sergio Scariolo, le coach de l'équipe d'Espagne, qui est un des plus grands coachs possibles et imaginables pour cette équipe d'Espagne, a été assistant.
Donc en fait, pour que il ouvre une porte pour les autres coachs français ou européens, on va dire, pour qu'ils réussissent en NBA, faut que ça passe en fait par des comment dire, des performances XXL avec l'équipe nationale en tant que coach, parce que maintenant de plus en plus d'équipes nationales européennes ont des joueurs qui évoluent en NBA, et là à mon avis les joueurs parlent entre eux et ça gagne leur respect. Non, Vincent,
il peut
pas
capitaliser
après,
là-dessus.
Le truc c'est comment il peut devenir, il va ouvrir peut-être.
Non, mais il va capitaliser sur ça justement grâce à des Popovic, grâce, voilà, grâce à des Atkinson qui l'ont affronté, à des Steve Kerr aussi qui l'ont affronté.
Les Américains seront toujours des Américains. Exactement. Et surtout les secteurs de l'économie, et alors particulièrement s'agissant de basket et de NBA. Mais ce que Fred veut dire, je pense, et je comprends parce qu'il le voit presque avec des yeux d'enfant, d'évolution, c'est quand même la crédibilité progressive que le basket français gagne pas à pas en NBA depuis 15-20 ans. C'est, je comprends que ça puisse le toucher. C'est, qui aurait pu imaginer ça du temps d'Olivier Saint-Jean, il y a 20 ans, 25 ans. Enfin, c'est assez extraordinaire. Et ça a été renforcé d'ailleurs, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec les gens de la NBA récemment de manière assez précise, et le très haut niveau, ça a été quand même un peu renforcé par les JO. Parce qu'ils ont été très impressionnés par deux choses aux JO, par l'organisation des JO, à Lille notamment, enfin la salle incroyable dans laquelle ils ont évolué, et puis malgré tout aussi par les deux équipes de France. Donc voilà, il y a le basket français a marqué un point supplémentaire vis-à-vis de ces Américains qui regardent toujours quand même de manière très amicale.
Il faut marquer énormément des points pour pouvoir y arriver. Étape par étape, on va y arriver parce que Wemby a été numéro 1 de la draft, Rizaché a été numéro 1 de la draft.
Dernier point, je trouve beau de la part de Vincent Collet, avec la carrière qu'il a, d'accepter aussi de ce type de rôle en fait.
Parce que il va bientôt faire un sujet. Si jamais il va en NBA et que ça ne marche pas, il y aura un sujet. Est-ce qu'il n'a pas raté sa fin de carrière? Voilà ce qu'il va poser comme question ici sur ce plateau.
On souligne la contribution de Bourg-en-Bresse dans la réussite du basket en NBA, parce que Rizaché, il vient de la GL Bourg-en-Bresse, et Fred Foutou, sélectionneur de l'équipe de France, il vient de la GL Bourg-en-Bresse.
Évidemment, Julien Bennett, qui est bressant et qui nous a fait rêver dans le tennis.
C'est quand même incroyable.
Bien sûr, on en parle, c'est très important. On se retrouve dans quelques instants, 10h56. On parlera de Pogacar. Est-ce forcément une bonne publicité? Là, c'est raclé à répétition. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.